France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Les bonnes résolutions de début d'année, tout le monde connaît cela. Mais sait-on bien ce qu'est une résolution ? Riche notion à laquelle nous consacrons la série de cette semaine. Résolution, dans son sens ordinaire, est assez proche de décision. Tout juste la première semble-t-elle charrier un peu plus de solennité. C'est bien ce qui amuse d'ailleurs dans les dites bonnes résolutions. On ne devine que trop la difficulté à tenir ce genre de décision solennelle. Raymond Devos avait une façon inimitable de se moquer de tout cela.
Une des premières résolutions, c'est de ne plus fumer. C'est parce que je trouve que c'est pas bon pour la santé. Et quand on fait 2 heures de spectacle, il faut être raisonnable. Alors, donc je ne fume plus, c'est fini. Terminé.
Vous sentez mieux ?
Oui, oui. C'est-à-dire, j'ai quand même... J'ai plus de souffle qu'avant. D'ailleurs, ça se voit. Je fume exprès pour voir si j'ai encore du souffle. C'est ça, c'est pour ça. Parce que je vois, vous riez déjà. Vous riez parce que vous vous dites, ce type, il dit qu'il ne fume plus, il est en train de fumer.
Et en plus, vous...
Mais c'est un contrôle, c'est tout. Je contrôle parce que comment voulez-vous que je contrôle mon souffle ? Ça se voit pas. Alors, donc là, voilà, c'est tout.
Et ça, c'est une des résolutions ?
Une des résolutions. J'en ai d'autres.
Comme ?
Ben, par exemple, j'ai pris la résolution de ne plus faire trop de grimaces. Parce que je suis doué sur le plan de la grimace, je suis doué. Mais quand même, c'est pas du grand art, la grimace, quand même. Quand on commence à faire des grimaces, c'est qu'on n'a pas autre chose à faire.
Et qu'est-ce que vous allez faire à la place hein ?
La place des grimaces ? Rien. Rien. Ça, c'est le grand art. C'est de ne rien faire du tout.
Les bonnes résolutions seraient-elles avant tout un ton, un effet d'annonce, une posture, dont implicitement tout le monde met en doute la réalisation ? Il faudrait vérifier tout de même, en se penchant sur les usages précis du terme « résolution » dans certains domaines. La chimie, par exemple, nous invite à considérer un sens assez tranché et concret du mot. Quand la neige se résout en eau, elle change véritablement de texture. C'est comme si quelque chose de franchement neuf faisait son apparition. Mais qu'en est-il en droit ? Qu'en est-il en mathématiques ? Drôle de mot, résolution, nous allons le voir. Nous allons en parler. Je suis entourée en effet ce matin de 2 académiciens, rien que cela. Bonjour Étienne Guis.
Bonjour.
Mathématicien, directeur de recherche émérite du CNRS. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et bonjour Serge Sûr.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de droit public de l'Université Paris-Panthéon-Assas et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici tout de suite un discours fameux du général de Gaulle, dont vous nous avez rappelé, Serge Sûr, l'importance pour notre sujet d'aujourd'hui. C'était le 30 mai 1968. De Gaulle avait quitté la France à un moment de ce mois de mai tumultueux. Il rentre pour remettre de l'ordre.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité mérite l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
J'ai pris mes résolutions, dit De Gaulle. Pourquoi, Serge Sûr, aimez-vous tant cette archive ? Est-elle pédagogique sur le mot « résolution » ?
Alors, elle est pédagogique, mais surtout, elle exprime vraiment une décision qui est performatrice, dans la mesure où, en ce discours de quelques minutes, mai 68 est terminé. Et donc, il y a un avant et un après, Et dans ce discours, les résolutions, il y en a deux qui sont négatives, deux qui sont positives. Négative, je ne démissionnerai pas, je ne changerai pas le Premier ministre. Et deux positives, le Premier ministre me proposera les changements du gouvernement et je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Là, il y a une dimension performatrice, puisque par le seul fait qu'il le dit, c'est fait. Et donc, ce discours est extrêmement important et on voit que le mot « résolution » est chargé de décisions extrêmement importantes.
Et ça n'est pas toujours le cas. Et plus d'une de décisions.
Oui,
plus
quatre, d'une. En l'occurrence, quatre oui, décisions oui. au moins parmi, puisque le discours oui. va se prolonger, mais ce sont les plus importantes, celles qui vont avoir des effets immédiats.
Vous pensez que c'est une bonne chose pour un chef de l'État, avant de dissoudre l'Assemblée nationale, vous voyez à qui je fais référence, d'annoncer la couleur avec autant de solennité ? J'ai pris mes résolutions, on entend mieux ?
Alors, il faut bien dire que la situation était une situation de crise majeure, ce qui n'était pas le cas en juillet 2024, lorsque le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée. Et d'ailleurs, on notera qu'il y a un certain parallélisme entre les deux. Et d'une certaine façon, il a fait son petit De Gaulle.
Mais Macron, vous voulez dire. Macron, on va le nommer quand même. C'est
Macron
président.
A fait le petit De Gaulle, mais les circonstances étaient extrêmement différentes et ça ne pouvait pas avoir la solennité et l'effet de choc que ce discours de 68 a eu.
Alors, le mot résolution, et c'est ça qui est troublant, est très fort là dans le discours de De Gaulle, mais n'a aucune connotation juridique précise.
En effet, mais vous savez, dans son ensemble, le mot résolution est un mot qui est extrêmement ambigu, qui comporte beaucoup de significations. Littré en donne 13 significations.
C'est faux, hein.
Et certaines sont tournées plutôt vers le passé. C'est par exemple lorsqu'on dissout un contrat, c'est une résolution du contrat. Ça veut dire qu'on en revient à l'état du droit initial.
Donc on change d'état quand même. Il y a vraiment
on change
rupture,
d'état, mais on revient en arrière.
Par la régression.
Alors que, en général, la résolution signifie plutôt que on va une rupture vers l'avant. C'est-à-dire qu'il y aura un changement qui aboutira à une transformation. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur le plan parlementaire, on parle des résolutions qui sont adoptées par une Chambre des députés ou une Assemblée nationale. Et sous la quatrième, l'adoption des résolutions signifiait que on critiquait le gouvernement, mais sans mettre formellement en cause sa responsabilité. C'était une déclaration de méfiance ou de réserve par rapport au gouvernement. Et souvent, ça permettait d'entraîner sa démission, d'ailleurs.
Donc, quand même, ça provoquait quelque chose comme une mise en responsabilité.
Oui, tout à fait. C'était une manière indirecte de mettre en cause la responsabilité, mais le gouvernement comprenait que, face à l'hostilité du Parlement, il devait s'incliner. Alors que sous la cinquième, on a commencé par interdire les résolutions.
Le mot n'est pas dans la Constitution.
Le mot n'est pas dans la Constitution. Il y est maintenant.
Enfin,
depuis
oui,
la réforme de 2008, on a introduit un paragraphe qui permet au Parlement d'adopter des résolutions. Mais ces résolutions, je crois qu'il y en a eu très peu d'adoptés, et en général, elles ont une autre signification. Ça n'est pas la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, c'est plutôt un ballon d'essai pour voir si on pourra aboutir à une loi.
Donc la mise en responsabilité, ça passe exclusivement par la motion de censure du fameux...
Ou par l'engagement de la responsabilité.
Voilà.
Le gouvernement peut engager sa responsabilité par une déclaration de politique générale,
oui.
et il pose la question de confiance. Auquel alors, cas, il ouais. doit obtenir une majorité favorable. Mais lorsqu'il l'engage sur un texte, là, il faut qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve. Il ne lui faut pas une majorité, il faut une majorité contre. Et évidemment, dans ces conditions, le gouvernement ne pose plus la question de confiance.
Mais cela signifie que la résolution a beau avoir été introduite, je crois que ça a été rappelé plusieurs fois par des révisions constitutionnelles qui ont introduit cette notion, ça ne sert à rien.
Alors, tout de même, ça sert au Parlement à s'exprimer.
Par exemple.
Eh bien, le Parlement peut adopter une résolution par laquelle il souhaite que... Et ça permet, éventuellement, de déposer un projet de loi ou de faire discuter une proposition de loi. Donc, c'est un acte préparatoire au vote d'une loi.
Mais est-ce que j'ai bien lu, lorsque j'ai constaté, là, en travaillant cette émission, que lorsque le vote d'une résolution est mis à l'ordre du jour, si c'est le gouvernement qui a la main sur l'ordre du jour, ce qui arrive quand même le plus souvent, il peut... la mettre dehors, l'effacer.
Il peut l'écarter.
On a l'impression, dès que ça compte, ça ne compte plus, quoi.
Alors, nous voyons bien le côté bancale, le mot serait trop fort, mais disons composite de la Constitution, parce qu'elle a été conçue au début comme un instrument de parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire que le gouvernement avait des pouvoirs extrêmement importants par rapport au Parlement, et il pouvait le corseter comme il le souhaitait. Et puis progressivement, on a desserré le corset, et on a introduit quelques nouvelles compétences en faveur du Parlement.
Oui.
C'est l'une d'entre elles. Mais ça ne porte pas atteinte au corsetage d'ensemble du Parlement, ce qui fait que le gouvernement conserve la main.
Donc, ce mot est employé, il semble avoir un sens très fort, c'est pour ça qu'on a commencé avec ce discours de rupture du général de Gaulle, mais en droit, à part le cas des contrats, où résoudre un contrat, c'est dire qu'il est désormais dissous, on revient en arrière, c'est une rupture quand même si c'est vers l'arrière, dans l'usage en droit interne, c'est tout de même peu concret, peu efficace, c'est en deçà, si j'ose dire, du sens du mot.
Tout à fait,
bon.
Tout à fait. C'est alors, un sens affaibli.
Non, alors parlons des mathématiques. En mathématiques, quelqu'un de tout à fait novice comme moi s'imagine que c'est le Graal. La résolution d'un problème, c'est sans ça. Là, c'est le dissous. Donc, franchement, c'est le faire changer le problème d'état. C'est radical. Et puis, c'est ce qu'on veut faire en maths. Non, je me trompe, Étienne
Guis? Dans l'idéal, un problème résolu est un problème qui a disparu. Tellement il
comme
est devenu,
le contrat.
Tellement
droit.
Il est devenu évident. Un mathématicien qui cherche à résoudre un problème, dans les bons cas, il le rend tellement clair qu'il ne se pose plus.
C'est presque une frustration après la satisfaction.
Absolument pas. Quand la chose est limpide, c'est le bonheur total.
Oui.
Il faut ajouter aussi que, bien entendu, résoudre un problème en mathématiques ne peut se concevoir que si on emploie certains outils qui sont à la disposition de celui qui veut le résoudre et qui dépendent de l'époque, qui dépendent de ce qu'on veut faire. Je vais vous donner un exemple très simple.
Et surtout, prenez des exemples.
Voici un exemple très très simple. On apprend très tôt au collège même que la solution de l'équation x plus 2 égale 0, c'est x égale moins 2. Mais quand on y pense un peu, ce n'est pas une solution, c'est une définition. Qu'est-ce que c'est que le moins 2 ? Par définition, ce qu'on appelle moins 2, c'est le nombre qui, quand on lui ajoute 2, ça fait 0. Autrement dit, pour résoudre une équation aussi simple que x plus 2 égale 0, on a dû faire un acte créateur. D'inventer un outil qui, en l'occurrence, sont les nombres négatifs.
Alors, là, vous m'y obligez, parce que je crois qu'il y a un exemple où, pour le coup, ça ne marche plus du tout. C'est x au carré plus 1 égale 0.
C'est la même chose.
Expliquez-moi.
C'est-à-dire que quand on prend l'équation x carré plus 1 égale 0, la solution qu'on apprend pour le coup, qu'on apprenait pour le coup au lycée, ce sont les nombres imaginaires, les nombres complexes. Mais c'est la même chose. On a dû inventer, créer un nouvel objet qui n'existait pas au préalable pour qu'il puisse servir de solution au problème. De la même manière que le moins 2 n'existait pas au préalable, on a inventé un nombre négatif pour résoudre l'équation x plus 2
égale 0.
Oui, mais
là, c'est pire, parce que ça veut dire que c'est racine x est égal à la racine carrée de moins 1.
C'est-à-dire,
ça existe une racine carrée d'un nombre négatif.
Mais vous parlez d'une question, une philosophe qui me pose des questions sur l'existence.
Oui.
C'est en fait une création
intellectuelle. Oui.
Donc on invente un nombre pour qu'il réponde à la question.
Donc en fait, il n'y a pas normalement, de problème de mathématiques, et notamment d'équations de mathématiques, c'est un type de problème insoluble.
Hélas, si.
Ah.
C'est une chose dont on a dû prendre conscience au début du XXe siècle. L'un des plus grands mathématiciens de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, Hilbert, avait rêvé, je crois que c'est le mot, il avait rêvé qu'un jour, on serait capable de décider de manière quasiment automatique si un énoncé est vrai ou faux. Il avait lancé ce défi, trouvez-moi un moyen, si possible, je sais pas, une espèce de programme d'ordinateur, vous lui donnez à manger une phrase et il vous dit c'est vrai ou c'est faux. Et hélas, nous avons dû accepter le fait, quelques années plus tard, en 1932, sauf erreur, que Gödel nous a appris que non, il y a des énoncés qui ne seront jamais vrais ou faux, qu'on ne pourra jamais démontrer qu'ils sont vrais et on ne pourra jamais démontrer qu'ils sont faux. Donc il y a, quoi qu'il arrive, des énoncés inaccessibles à l'entendement humain.
Alors j'ai plein de questions évidemment,
allez-y.
Mais je voudrais y aller doucement. D'abord ce David Hilbert, mathématicien allemand à la charnière du 19e et du 20e siècle, je crois qu'il a serré 23 sortes de problèmes dans son optimisme. Non seulement il disait que tout était soluble ou pouvant avoir une résolution, mais en plus, il voyait 23 types de problèmes pour les mathématiques de l'avenir.
Vous savez, depuis longtemps maintenant, il y a tous les 4 ans un grand congrès international des mathématiciens. Et en 1900, Hilbert avait été invité. Et le thème de son exposé, c'était « Je vais proposer 23 problèmes pour le XXe siècle ». Donc il a en effet fait une liste de 23 problèmes qui, selon lui, mériteraient d'être étudiés. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Sur les 23, je ne sais pas exactement, mais il y en a peut-être 17 ou 18 qui ont en effet été résolus. Et ça a été une espèce de guide pour la recherche au XXe siècle.
Est-ce qu'il y avait les 3 grands problèmes que l'Antiquité nous a légués et dont j'ai cru comprendre qu'au XIXe siècle, effectivement, on a encore dit qu'ils étaient des problèmes non résolus, mais peut-être que je me trompe, à savoir la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et la duplication du cube. Si j'ai bien compris, c'est sur le plan géométrique qui intéressait les Grecs, avec une règle et un compas. Il est impossible de dessiner un carré autour d'un cercle qui... Enfin, un carré correspondant à la même surface que le cercle, c'est ça ? Il est impossible, avec la règle et le compas, de couper en 3
un angle.
Et il est impossible de dupliquer un cube en faisant un autre cube de 2 fois le volume du précédent, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Donc, c'est 3
et pourquoi
problèmes.
C'est pas possible ?
Je vais vous faire un petit cours de maths,
si vous voulez.
En tout cas, en 1900, la question avait été réglée. En 1900, on savait que ces questions ne sont pas possibles. Ces problèmes ne sont pas résolubles avec les outils qu'on propose. C'est-à-dire qu'on proposait d'utiliser la règle et le compas. Si vous me donnez d'autres outils, alors je peux résoudre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y avait un problème qui venait avec une règle du jeu. Mmh. Vous devez régler ce problème, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser autre chose que la règle et le compas. C'est ça qui était intéressant. Donc ça a été réglé, en effet, fin 19e, et Hilbert le savait bien, évidemment.
C'est-à-dire que la quadrature du cercle, bon, attendez, là, je ne fais pas la cuistre, j'ai juste lu et travaillé, hein, ça, j'ai aucun mérite, mais la solution est numérique, au sens où c'est la racine carrée du nombre pi, n'est-ce pas ? C'est
oui,
ça qu'il faut essayer
pi,
de...
Oui.
Et ça ne se dessine pas.
Ça ne se dessine pas avec un compas et avec une règle. Mais par contre, si vous demandez à un ordinateur de calculer pi avec 1 million de décimales, il le fera immédiatement. Donc ça dépend de ce à quoi on a le droit pour résoudre un problème.
Mais ça veut dire qu'on a une résolution qui renvoie vers quelque chose d'infini. Parce que la racine carrée d'un nombre qu'on appelle, je crois, transcendant, le nombre pi, ça, c'est un concept plus qu'une chose finie.
Tout à fait.
C'est ça ?
Tout à fait. Alors, il y a une chose intéressante sur la quadrature du cercle, c'est que ça fascine.
Ça fascine
tout le monde depuis très longtemps. Et encore aujourd'hui, je reçois au moins 1 ou 2 fois par mois une solution.
C'est vrai ?
De la quadrature du cercle.
Géométrique, vous voulez dire ?
Oui, des amateurs qui pensent pouvoir résoudre cette question. Et je vais vous donner une histoire intéressante. Du côté de 1780 ou 70, les académiciens des sciences en avaient marre. Ils en avaient marre de recevoir trop de solutions. À l'époque, tout le monde pensait que probablement c'était pas résoluble, mais ils étaient fatigués de recevoir des solutions un peu ridicules, qu'il fallait lire, corriger, etc. Et ils ont fait une résolution. L'Académie des sciences a voté une résolution qu'ils ne considéreraient plus les manuscrits concernant la quadrature du cercle. Donc nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, de même considérer les preuves de la...
Mais ça semble vouloir dire que même quand on a une solution numérique, en utilisant l'algèbre, les nombres transcendants, enfin autre chose que ce qu'on appelle les entiers, les réels, les nombres réels, etc., pour plein de gens, c'est pas une résolution. C'est pas une résolution géométrique. De facto, d'ailleurs, vous venez de me le dire. Ils rêvent encore à une résolution proprement géométrique.
Oui, ils ne veulent pas croire qu'il a été démontré qu'une solution proprement géométrique est impossible.
Ça a été démontré, je crois.
Ah oui, ça a été démontré, ouais. Je crois, 1899.
Oui, même avant, j'ai cru lire Ferdinand von Lindemann.
Lindemann, oui.
C'est ça.
Qui a démontré que pi est un nombre transcendant, effet.
Dites-moi. Et j'ai aussi découvert, d'ailleurs, que algèbre vient de l'arabe, el-jabr, réduction de morceaux. Ce qui voudrait dire que dans les équations algébriques, on essaye de trouver des solutions avec des nombres singuliers pour couper des choses en morceaux. En sachant qu'on ne va pas tomber sur quelque chose de bien fini, de bien parfait, c'est ça ? Est-ce qu'on peut dire, vous voyez, j'emploie volontairement un langage un peu prosaïque pour qu'on essaie de comprendre ce que c'est que cette sorte de résolution.
Parce que ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'un même problème peut avoir de nombreuses solutions ou résolutions différentes, suivant la manière dont on l'aborde. Pour vous donner rien qu'un exemple, les équations du troisième degré, qui ont fasciné les mathématiciens à partir de la Renaissance. On a trouvé plein de solutions différentes, des solutions avec les nombres complexes, et puis il y a eu des solutions avec de la physique, il y a eu des solutions numériques, il y a eu des solutions approximatives. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais organisé un week-end avec quatre classes de maths sup, maths spé. Nous étions partis en week-end, et le thème, c'était les solutions de l'équation du troisième degré, de plein de sortes différentes, y compris avec des méthodes graphiques. On a une équation du troisième degré. Beaucoup d'ingénieurs au 19e siècle avaient besoin de résoudre des équations du troisième degré. Et ils les résolvaient avec des graphiques, avec des abacs, comme on appelait à l'époque. Donc tout ça a été assez passionnant de comprendre qu'une même question peut être approché de plein de manières différentes.
Alors, le mathématicien Henri Poincaré, qui a vécu à peu près à la même époque que l'allemand Hilbert, disait que finalement, il y a seulement des problèmes plus ou moins résolus. Oui. J'ai l'impression que ça fait écho à ce que vous vouliez dire.
Il a plein d'exemples en tête, mais il avait probablement en tête ce qu'on appelle le problème des trois corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème des trois corps ? On sait depuis Newton que si deux planètes dans l'espace interagissent entre elles par la gravitation, elles vont tourner sur des courbes qui sont des ellipses. Mais si on a maintenant trois corps qui interagissent mutuellement, quelles vont être les trajectoires de ces trois corps ? C'est encore plus compliqué si au lieu de 3, on en a 10 ou 15 ou 20. Et cette question, à quoi ressemblent les trajectoires du système solaire, a passionné tous les astronomes depuis toujours. Et Poincaré, précisément, est l'un des premiers qui a montré que non, ça dépend comment on prend la question. Si on prend la question « Trouvez-moi l'équation de la trajectoire », la réponse est « Non, vous ne l'aurez jamais ». Il a même démontré qu'on ne l'aura jamais. Mais il a proposé d'autres approches, dans quelques mémoires fabuleux, dans lesquelles il montre que si on regarde le problème différemment, si on utilise d'autres méthodes, on a des solutions qui sont de nature différente et qui sont tout aussi utiles.
Alors, nous avons parlé, nous, dans cette émission, du problème des trois corps dans notre série sur la métaphysique, mi-décembre. Et bon, en plus, ce qui est fascinant, c'est qu'il a commencé par se tromper, Poincaré, puis qu'il a rectifié, etc. Donc, ça pose la question de l'erreur. Mais écoutez néanmoins son optimisme, plus exactement, ses piques à l'égard des pessimistes. Henri Poincaré, il s'agit d'extrait de « Science et méthode » en 1908.
Il y a eu autrefois des prophètes de malheur. Ils répétaient volontiers que tous les problèmes susceptibles d'être résolus l'avaient été déjà, et qu'après eux, il n'y aurait plus qu'à glaner. Heureusement, l'exemple du passé nous rassure. Bien des fois déjà, on a cru avoir résolu tous les problèmes, ou tout au moins avoir fait l'inventaire de ceux qui comportent une solution. Et puis, le sens du mot « solution » s'est élargi. Les problèmes insolubles sont devenus les plus intéressants de tous, et d'autres problèmes se sont posés auxquels on n'avait pas songé. Pour les Grecs, une bonne solution était celle qui n'emploie que la règle et le compas. Ensuite, cela était celle qu'on obtient par l'extraction de radicaux, puis celle où ne figurent que des fonctions algébriques ou logarithmiques. Les pessimistes se trouvaient ainsi toujours débordés, toujours forcés de reculer, de sorte qu'à présent, je crois bien qu'il n'y en a plus.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Nous parlons du mot résolution ce matin et d'ailleurs toute la semaine, à l'occasion des vœux et des vœux intimes où nous forgeons souvent de bonnes résolutions pour l'année à venir. Eh bien, ce mot est tellement riche philosophiquement, scientifiquement, juridiquement que nous avons décidé de lui consacrer une série. Je suis en compagnie du mathématicien Étienne Guis et du juriste Serge Sûr. Serge Sûr, on rêverait peut-être en droit d'avoir l'optimisme de Poincaré où tout peut être quand même un jour résolu, semble-t-il.
C'est
pas tout à fait ce qu'il dit. Attends, on va laisser faire l'analyse par le mathématicien.
Si on utilise des nouveaux outils nécessaires pour la résolution. Il explique que les solutions de problèmes jadis impossibles sont possibles aujourd'hui si on a les outils correspondants.
C'est pas mais tout alors, à fait si la même chose. Alors, du coup, je vous réponds immédiatement. Enfin, je vous relance par une autre question. Pour Henri Poincaré, c'était d'autant plus important de garder quand même un certain optimisme que lui-même a établi une conjecture très connue. C'était encore autre chose que le problème des trois corps. Oui. Moi, j'y connais rien du tout, donc je vais sûrement pas l'expliquer. La conjecture de Poincaré. Et il était quand même sûr qu'un jour, elle serait résolue par quelqu'un. Et de facto, elle l'a été, il y a très peu de temps, dans les années 2000. Racontez-nous.
D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de conjectures qui ont été émises par Poincaré en particulier, qui se sont avérées fausses. Donc, il faut quand même pas... Il faut bien voir les choses dans les deux sens. Hein. Oui, en effet, il y a ce côté de l'intuition, de la conviction personnelle, qui fait qu'un grand mathématicien comme Poincaré ou un autre peut être convaincu d'une vérité, même s'il n'en a pas la preuve. Alors il lance ça en pâture à la communauté jusqu'à ce que quelqu'un trouve la solution.
Donc ça a été le cas, un certain Perelman, russe, a répondu à l'Institut Clay qui donnait $1 million, je crois.
Oui, mais il a refusé.
Il a refusé le prix. Voilà. Il a refusé la médaille Fields qu'on lui a donnée en 2006. Et
c'est intéressant parce qu'en général, il est de coutume de se moquer de ce monsieur Perelman parce qu'il est un peu atypique, un peu autiste, on pourrait dire. Il a refusé son $1 million. Il a refusé la médaille Fields. Moi, je trouve ça vraiment assez exceptionnel, quoi. Quand on lui demande pourquoi il a refusé tout ça, il répond « Je ne travaille pas pour l'argent ». Et je trouve ça, dans notre siècle, assez exceptionnel.
C'est vrai. Mais je reviens maintenant à la transposition de ces réflexions des maths vers le droit. C'est vrai que les juristes rêveraient que le droit apporte des solutions, même d'un certain point de vue. Le philosophe Hegel, dans sa philosophie du droit au XIXe siècle, trouvait que le droit permettait d'avancer en rationalité, de résoudre des contradictions, puisqu'il voyait l'histoire de façon dialectique, avançant de contradiction en résolution, puis nouvelle contradiction apparaissant. Et le droit avait un rôle majeur. Et pourtant, le mot résolution, nous l'avons vu en droit interne, nous allons le voir en droit international, Serge Sûr, est tout de même bien plus modeste que la notion de résolution en mathématiques.
Oui, supposer que le droit puisse apporter des solutions à tous les problèmes économiques, sociaux, politiques, ce serait une sorte de totalitarisme juridique. Or, le droit est une discipline ouverte, c'est-à-dire qu'il laisse place à la possibilité de changement. Alors, certains changements se déroulent à l'intérieur du système juridique, sont conformes à ses principes et se déroulent suivant ses procédures, et puis d'autres sont de véritables ruptures. Alors, de ce point de vue, on peut peut-être opposer d'ailleurs l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité
parle
des Nations Unies.
Voilà.
Le terme de résolution, il est employé aussi bien pour les résolutions de l'Assemblée générale que pour celles du Conseil de sécurité. Et je rappelle que l'Assemblée générale, c'est l'organe qui rassemble tous les États membres des Nations Unies et qui les traite à égalité. Chacun dispose d'une voix. Alors que le Conseil de sécurité, c'est un organe restreint qui ne comprend que 15 membres, dont 5 membres permanents qui sont nommément désignés par la charte, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Et ces 5 États disposent en outre d'un droit de veto, c'est-à-dire que s'ils s'opposent à l'adoption d'une résolution, ils l'empêchent d'exister. Ça leur donne une situation tout à fait privilégiée, de sorte que le Conseil de sécurité est en réalité un organe qui est au-dessus même de la charte et qui peut prendre des décisions sous le nom de résolutions qui n'ont pas été prévues par la charte. Par exemple, lorsque le Conseil de sécurité décide d'instituer un tribunal pénal spécial pour l'ex-Yougoslavie. tribunal international dont il va définir le statut, la compétence et le mode de fonctionnement. Eh bien, ça n'est absolument pas prévu par la charte. On pourrait dire qu'il sort de ses compétences. Pas véritablement, parce qu'il a une obligation générale qui est de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationale. Mmh. Ça lui permet de faire énormément de choses, d'avoir une très grande créativité et d'aller au-delà, très au-delà de ce qu'avaient prévu les auteurs de la charte.
Donc la résolution, c'est quelque chose qui crée quelque chose concrètement d'important et de tangible. Mais, oui.
Non, en réalité, il y a beaucoup de sens différents.
Oui, oui, oui.
Et en principe, l'Assemblée générale prend des résolutions qui ne sont pas obligatoires.
Ah oui, alors celles-là,
qui sont
elles
invitations.
Sont beaucoup moins fortes.
Mais si on les regarde en détail, elles ont malgré tout un certain degré d'obligation. Et notamment, elles doivent être considérées de bonne foi par les États membres. Elles donnent un titre juridique aux États qui les exécutent. Mmh. Et surtout, l'administration, le secrétariat des Nations Unies est tenu de les appliquer. Et je vais prendre un exemple très simple. Au début des années 80, l'Assemblée générale a voté une résolution qui prévoyait la tenue d'enquête dans l'hypothèse où il y aurait un usage allégué d'armes chimiques ou biologiques. Et elle prévoyait aussi que les Nations Unies allaient élaborer des procédures pour ces enquêtes. L'Union soviétique, qui était visée par cette résolution, parce qu'il s'agissait en fait de l'emploi d'armes chimiques en Afghanistan, vent debout contre cette résolution et entendait qu'elle ne soit pas appliquée. Et d'ailleurs, elle n'a pas été véritablement appliquée, mais le secrétariat a dû élaborer les procédures. Mmh. Parce que là, il était obligé de le faire. Et donc, il y a eu une élaboration de procédures, lesquelles ont été par la suite utilisées, mais sans référence formelle à la résolution. Vous voyez, c'est un petit peu un jeu subtil où le caractère de la résolution n'est pas obligatoire pour les États membres,
oui.
Mais il l'est pour le secrétariat. Et à partir de là, il en résulte l'ouverture d'options.
Mais par exemple, quand l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l'indépendance des pays coloniaux en 1960...
Le droit à l'indépendance.
Le droit à l'indépendance.
Oui.
C'est pas ça qui produit l'indépendance. Je sais pas comment
non.
vous dire. C'est un processus
non,
historique et souvent violent d'ailleurs.
Alors écoutez, ça a produit certaines indépendances, mais en réalité... Cette résolution a été adoptée le 14 décembre 1960 parce qu'il y avait déjà beaucoup d'États nouvellement indépendants qui étaient aux Nations Unies. Et c'est eux qui ont pu faire pencher la majorité vers cette recommandation, qui d'ailleurs est une déclaration.
Oui.
Ce n'est pas vraiment une
résolution. Ah, ce n'est pas vraiment une
résolution. C'est une résolution qui prend le nom de déclaration.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on reconnaît un droit existant, on ne le crée pas. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est dans la charte.
Alors on va... lire une résolution pour le coup du Conseil de sécurité, celle dont vous venez de nous expliquer qu'elles sont souvent les plus puissantes. Nous allons entendre la résolution 1368 prise en 2001, adoptée par le Conseil de sécurité le 12 septembre 2001, donc juste le lendemain de l'attentat contre les Twin Towers à New York. Et je crois qu'il faut bien examiner tous les verbes qui sont employés dans cette résolution.
Résolution 1368, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4370e séance le 12 septembre 2001. Le Conseil de sécurité, réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies, résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationale causées par les actes terroristes, reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective, conformément à la Charte, 1. Condamne catégoriquement, dans les termes les plus forts, les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington DC et en Pennsylvanie, et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. 2. Exprime ses plus profondes sympathies et condoléances aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'au peuple et au gouvernement des États-Unis d'Amérique. 3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que ceux qui portent la responsabilité d'aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes. 4. Appelle également la communauté internationale à redoubler d'efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 du 19 octobre 1999. 5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies. 6. Décide de demeurer saisi de la question.
Alors j'espère que vous avez apprécié la voix de Nicolas Berger, très solennelle, pour lire cette résolution ainsi que cette musique. Mais il est vrai que sourire n'est pas très bien placé, n'est pas très judicieux. C'est quand même le 12 septembre 2001, un moment charnière dans l'histoire du monde contemporain. Serge Sûr, comment entendez-vous tous ces verbes « condamne »,« exprime », »,« appelle », »,« se déclare prêt » et finalement « décide », mais que décide le Conseil de sécurité ? De demeurer saisi de la question. On pourrait s'amuser un peu, on aurait tort.
Alors écoutez, je crois que cette résolution est extrêmement riche et elle appellerait un commentaire extrêmement long, mais je voudrais vraiment en rester à l'essentiel. Je crois qu'il faut dire un mot d'abord de son contexte.
Oui.
Elle a été adoptée le 12 septembre, les attentats sont du 11. Ça veut dire avec une rapidité tout à fait exceptionnelle. Et la raison, c'est que ces attentats ont eu lieu à New York, que beaucoup de délégués avaient le sentiment que les Nations Unies étaient visées. Et donc, ils se sentent concernés.
Oui.
D'où les termes employés. Épouvantables attaques terroristes. Épouvantables. Mais c'est eux qui étaient épouvantés. Parce que lorsque vous avez, en Afrique, dans une région reculée, 50 000 morts, le Conseil de sécurité se déclare préoccupé.
Mais c'est vrai, là, c'est comme ça qu'il parle.
Bien sûr, préoccupé ou il s'estime concerné par cette affaire.
Pas horrifié.
Non, pas du tout. Il déplore. Mais là, épouvantables attentats dans les termes les plus forts, condamne catégoriquement. On voit l'émotion des délégués. Alors, j'ajoute que les États-Unis n'étaient pas demandeurs de cette résolution et qu'elle a été adoptée avec l'idée qu'il fallait les réintégrer. On savait bien qu'ils allaient réagir par la force. Il fallait les réintégrer dans le cadre des Nations Unies. Et pour ça, il fallait leur donner une autorisation. C'est ce que fait la résolution, elle les autorise à employer la force.
Et c'est important ça, lorsqu'on sait que bien sûr les États-Unis peuvent l'employer sans y être autorisés, comme ça a été le cas un peu plus tard en faisant une coalition et en intervenant en Irak en 2003.
Là, il n'y avait pas de résolution. Ouais. En 2003, ils ont violé la charte.
Oui.
Et là, on ne voulait pas justement qu'ils violent la charte.
Et ça change quoi ?
Et ça change que le Conseil de sécurité est impliqué, que la communauté internationale est impliquée et que les États-Unis vont agir avec l'autorisation, y compris de la Russie. Et donc, de ce point de vue, c'est très important parce que les Nations Unies restent dans la boucle.
Oui, mais ma question était un peu de réel politique. Qu'est-ce que ça change concrètement que le pays le plus fort du monde soit autorisé ou non à faire une guerre qu'il va faire de toute façon ?
Ça change sur le plan juridique. Ou alors vous considérez que le droit n'a aucune importance. Mais il y a une différence entre attaquer l'Irak et puis se trouver en butte à l'opposition d'un certain nombre d'États, et même d'une majorité d'États, ce qui affaiblit évidemment non seulement la légitimité mais l'efficacité de l'intervention, et puis agir avec le consentement, l'approbation de toute la communauté internationale. Ça fait une différence essentielle. Et on réintègre l'action américaine dans le cadre de l'ONU, de sorte que les États-Unis doivent rendre compte à l'ONU de ce qu'ils font. L'article 51 de la Charte prévoit qu'ils rendent compte de leurs opérations. Ce qu'ils ont fait au début, ils ont arrêté de le faire assez rapidement, mais ils l'ont fait au début. Et donc, ils ont accepté cette résolution. Alors, un autre élément important, c'est que nous avons là un passage. Nous avons un passage entre deux approches du terrorisme. Le terrorisme, il a été approché par les Nations Unies à partir de 1992. Jusqu'alors, ils n'en parlaient pas. Parce que il y avait la lutte des peuples coloniaux, des peuples dominés contre cette domination, et ça pouvait impliquer le terrorisme. Pensons au terrorisme palestinien. Donc, pour des raisons politiques, on laissait la question de côté. 92, c'est les attentats contre l'aviation civile de la Libye, qui proviennent de la Libye. Et là, le Conseil de sécurité prend des mesures décisives contre la Libye pour obtenir la condamnation du terrorisme par voie judiciaire. Et l'approche, elle était judiciaire. Et là, nous avons le passage d'une approche judiciaire à une approche sécuritaire, puisqu'on autorise le recours à la force armée. Mais en même temps, il y a cette double logique, la logique judiciaire, elle est maintenue. Puisqu'au paragraphe 4, au paragraphe 3, pardon, vous lisez « Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, etc. » Donc vous avez là l'approche judiciaire. Mais dans le préambule, on mentionne le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective, ce qui veut dire « Allez-y, vous pouvez recourir à la force ». Donc vous voyez, vous avez le passage de l'un à l'autre.
Oui.
Et les États-Unis ont respecté la résolution lorsqu'ils ont utilisé la force. En revanche, ils ne l'ont pas respecté sur le plan judiciaire, puisque Guantanamo, c'est directement contre ce paragraphe 3.
Oui.
Et les États-Unis, donc, ont utilisé la résolution d'une certaine façon, mais pas de l'autre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la seule décision qui soit prise, vous l'avez remarqué très justement, c'est de décider de demeurer saisi de la question.
Oui.
Ce qui a deux implications. Une implication négative, tant que le Conseil de sécurité s'occupe de la question, l'Assemblée générale ne doit pas s'en mêler. Ça, c'est le principe de la charte. Priorité au Conseil de sécurité. Et une application positive, le Conseil va adopter d'autres résolutions. Vous remarquerez, dans cette résolution, il y a une défausse. Le Conseil de sécurité ne se prononce pas sur le plan militaire, il n'agira pas sur le plan militaire. Mmh. Alors que la charte l'autorise à le faire. Il pourrait décider lui-même d'une action militaire. Non, il renvoie aux États-Unis. En revanche, il reste compétent pour tout ce qui est civil. Et cette résolution précède une autre résolution, qui est la résolution 1373 du 28 septembre 2001, donc adoptée très rapidement après, dans laquelle le Conseil définit un programme complet de lutte contre le terrorisme, sur le plan civil, sur le plan judiciaire, sur le plan pénal, et sur le plan fiscal, sur le plan douanier, et sur le plan des services de renseignement. Il y a vraiment un programme complet, mais c'est un programme civil, et qui là est obligatoire pour tous les États. Donc vous voyez.
Oui, donc il y a quand même évidemment énormément d'implications concrètes. Mais je voudrais tout de même vous demander si vous savez, peut-être qu'on ne sait pas, d'où vient ce mot. C'est-à-dire, quand a-t-il été décidé, ou résolu, oserais-je dire, d'appeler résolution ces choses qui sont quand même des déclarations et des décisions. Je ne dis pas sans effet ou des recommandations. Ce mot est quand même d'une force quand on voit ce qu'il veut dire en mathématiques, par exemple. On sait pourquoi ce mot est sorti. Vous voyez, c'est un mot qui est beaucoup plus fort en fait que jugement, alors que les jugements de tribunaux dont vous venez de parler sont incroyablement forts, avec des effets d'emprisonnement de gens très longtemps, etc. C'est un mot tellement fort et pourtant, vous en conviendrez, ça laisse des choses quand même un peu en suspens.
Oui, mais justement, le terme de résolution, il est extrêmement vague, parce qu'il comporte toute une série de sens et toute une série de degrés d'autorité. Ça peut être une recommandation où simplement on demande, on souhaite, on déclare, on exprime le désir que. Et puis ça peut être aussi des décisions où ça implique une action très forte. Et donc, c'est ce caractère œcuménique, si je puis dire, ou polysémique de la résolution qui permet de l'employer. Et c'est la pratique, ça n'est pas dans la charte, hein. C'est la pratique qui, aussi bien pour l'Assemblée générale que pour le Conseil de sécurité, a forgé ce mot ou a utilisé ce mot. Mais je pense que ça vient au fond de la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire que ce sont les parlements qui ont parlé de résolution.
Et puis tous les autres mots étaient pris. Hein. Le droit est quand même très riche.
Ben, il y avait recommandation, il y avait décision. Hein. La charte parle de recommandation ou de décision. Mais on a préféré un terme qui était plus générique, en quelque sorte, plus vague, et qui permettait d'avoir des textes avec des autorités différentes. Parce que là, vous remarquerez qu'il y a différents types d'autorités dans ce texte.
Étienne Guy, c'est quand même étonnant. Ce mot n'a plus rien à voir en droit, malgré la fermeté que je ne veux pas du tout moquer. Hein, et c'est important quand même, une résolution de ce Conseil de sécurité, ce n'est pas rien. Mais ça n'a rien à voir avec la résolution d'un problème de maths.
Moi, ce qui me semble intéressant dans cette discussion, c'est que les mathématiciens ont en quelque sorte un consensus sur ce qu'est une preuve et ce qu'est la vérité. Alors que du côté juridique, évidemment, le consensus n'y est pas. Il s'agit de compromis, de discussions beaucoup plus générales et beaucoup plus vagues. Alors que chez nous, ce qui est une preuve est reconnu par tous comme une preuve. À moins que quelqu'un trouve une erreur dans la preuve, mais la définition même de ce qu'est la preuve est acceptée par tous.
Et puis il y a ce... en maths des conjectures non résolues, comme celle de Christian Goldbach de 1742. Alors, je suis absolument incapable d'expliquer, mais je sais qu'elle existe, qui continue de susciter des fantasmes, des vocations. Enfin, il y a un engagement personnel.
Tout à fait.
Alors, il y a un film là-dessus. On va diffuser un extrait, puis vous nous commenterez cela avec plaisir, Étienne Guisse. Il s'agit du film qui s'appelle Le Théorème.
Le Théorème de Marguerite.
Voilà. Écoutez.
Merci. Ça vient de ma mère, les mathématiques, à l'épreuve de maths au collège. J'ai commencé à l'aider à corriger ses copies quand j'étais en primaire, parce qu'elle n'allait pas bien. À cette période, je faisais beaucoup d'insomnie. J'étais très angoissée par l'infini, par l'idée que l'univers n'avait pas de fin. Alors, à la bibliothèque, je lisais tous les livres de maths que je trouvais pour résoudre des problèmes tangibles qui ont des solutions. Et un jour, je suis tombée sur la pyramide de Goldbach. Un problème irrésolu jusqu'ici, avec cette infinité de nombres premiers. C'était un tel défi, un problème si complexe et magnifique. J'ai su que je passerais ma vie à chercher à le résoudre. Goldbach, c'était un moyen de mettre de l'ordre dans l'infini. Du coup, pour demain, est-ce qu'on travaille ensemble?
Il est encore tôt. Si on est maintenant?
Oui.
Si on essayait de faire ça?
Et comme ça, sinon...
Le Théorème de Marguerite, film réalisé en 2023 par Anna Novion. Étienne Guy, c'est assez joli, cette phrase. J'étais angoissée par l'infini.
Oui. Alors, d'abord, je recommande chaleureusement ce film, oui. Non pas pour les mathématiques en soi, mais parce que j'ai rarement vu l'expression de l'émotion scientifique. Quand on voit cette jeune femme, quand on voit la façon dont elle travaille, je trouve que c'est très émouvant et c'est finalement assez proche de la réalité du quotidien du chercheur. Et puis à la fin, on comprend aussi que, au cours du film, elle comprend que c'est encore mieux si on travaille ensemble.
Oui.
Et c'est un grand moment. Alors, ne parlons pas de Goldbach par lui-même, mais effectivement, l'émotion est présente dans ce film, et je ne crois pas qu'elle soit spécifique aux mathématiques, je pense qu'elle est assez spécifique au travail intellectuel en général, hein. L'émotion de la recherche intellectuelle, ça dépasse largement même la science.
Donc finalement, sur les résolutions, qui sont des choses assez abstraites, c'est pas mal d'intégrer en fin d'émission des personnages, parce que vouloir résoudre, c'est des histoires de vie. Il y en a un dernier dont je voudrais que vous nous parliez un petit peu. On n'a pas eu beaucoup le temps, c'est Évariste Galois, qui à 19 ans était sur les barricades de la Révolution de 1830, qui était un républicain très provocateur et d'ailleurs incarcéré plusieurs fois,
oui.
Pendant la monarchie de Juillet y compris. Et c'était qui Évariste Galois? Pour un matheux comme vous, racontez-le.
Alors Évariste Galois était un fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois, qui a révolutionné la façon de penser les mathématiques au XIXe siècle. Mais il faut savoir que ce qu'il écrivait n'était pas facile à lire. Tous ses mémoires qui ont été envoyés à l'Académie des sciences ont été refusés parce qu'on n'y comprenait rien. Il a fallu attendre, que je ne dise pas de bêtises, au moins 30 ou 40 ans avant qu'on puisse digérer ce qu'il avait dit et compris. Mais aujourd'hui, alors, quand je n'ai pas beaucoup de temps, je peux dire que Galois est le fondateur de la théorie de la symétrie. La oui. symétrie qui est omniprésente dans les maths, dans les sciences, un peu partout. Et c'est à Galois qu'on le doit. Et en effet, la lettre qu'il a écrite la veille de sa mort...
Oui, parce qu'il a été provoqué en duel et voilà. Il fait sentir que c'était pas sûr qu'il en survive.
C'est plus que sentir, je crois qu'il le savait.
Et donc il a fait un testament la veille.
Voilà, il a écrit toute la nuit à écrire son testament mathématique, dont la dernière phrase, dont les derniers mots sont « Quel gâchis !»
Quel gâchis.
Voilà.
Mais était-il aussi... optimiste malgré tout que Hilbert ou Poincaré que nous avons évoqués et qui sont plus tardifs.
Oui, je pense que oui.
Vous pensez que tout était finalement soluble ou,
oui,
ou non?
Oui, enfin plus précisément, Galois précisément est celui qui a démontré que si on cherche à résoudre l'équation du cinquième degré, et si on a le droit d'utiliser que les radicaux, les racines carrées, les racines cubiques et autres, eh bien on ne pourra pas le faire. Donc Galois est l'un des premiers à avoir démontré un théorème de non-résolubilité.
Est-ce que affirmer, démontrer la non-résolubilité n'est pas encore résoudre ?
Mais bien sûr, c'est ce que disait Poincaré dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure. Si c'est insoluble, ça ouvre de nouvelles portes pour de nouvelles idées, de nouvelles questions. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Galois. Galois a montré que l'équation du cinquième degré n'est pas résoluble, mais ce n'était pas du tout triste pour lui, c'était au contraire une ouverture pour un monde qu'on comprend mieux.
Est-ce qu'il y a une beauté du droit, quand même, Serge Sûr, qui ressemble à la beauté des maths ? Toute proportion gardée, là, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'émotion chez les gens qui cherchent des résolutions mathématiques. Vous ne croyez pas que chez les juristes, il y a parfois cette admiration pour la beauté quasi architecturale de la rationalité juridique ?
Oui, tout à fait, la cathédrale de normes. Oui, il y a une approche esthétique du droit. Et quand on lit le Code civil, par exemple, je parle du Code civil initial, dans sa pureté, dans sa logique, on est frappé par ce monument.
Donc,
une
oui.
dimension monumentale de la construction juridique, tout à fait.
Resolution de Carla Thomas, la reine de la soul de Memphis, et Otis Redding, 1967. And baby, let's make promises that we can keep. Baby, faisons des promesses que nous pouvons tenir and call it a New Year's resolution. Et appelons ça la résolution de l'année. Merci beaucoup Serge Sûr et Étienne Guis. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au nom et au fait même de nommer. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi certaines choses ont-elles des noms? Quand on dit qu'une chose ou une personne a un nom, que ce nom est le sien, que ces choses ont leur nom, que ces personnes ont leur nom, on introduit une différence subtile et profonde dans le langage, même si elle nous paraît très ordinaire. On introduit cette étrange différence entre le nom commun et le nom propre. On dit, par exemple, cet objet est un tableau. On le range dans la catégorie des tableaux. Mais si on dit c'est la Joconde, on dit quelque chose de plus. On a l'impression de désigner ce tableau de manière absolument irréductible, de telle sorte, par exemple, à le distinguer de ses reproductions. On va dire ceci, c'est la vraie Joconde, c'est la Joconde, c'est le nom propre de cet objet unique et individuel et non confondable avec quelque chose. C'est même la condition pour l'authentifier avec des procédures qui vont nous permettre de le distinguer de ses contrefaçons, même si elles sont ressemblantes. Et bien sûr, c'est encore plus important pour une personne. Peut-être, on va devoir y venir, n'est-ce même au fond que pour les personnes qu'il y a véritablement des noms propres. Quand je dis que j'ai un nom, que je donne un nom, que je prends un nom, c'est quelque chose qui est en tout cas considéré comme profondément personnel, comme lié de manière intime à la personne. Le nom semble alors osciller, comme Platon l'avait déjà montré dans son célèbre dialogue sur le langage intitulé Le Cratyle, et les dialogues de Platon ont d'ailleurs souvent des noms de personnes, des noms d'interlocuteurs. En tout cas, cela arrive pour celui-là, pour Le Cratyle, qui est une personne, eh bien, voici que dans le Cratyle, deux interlocuteurs s'agitent pour savoir si les noms sont révélateurs de l'individualité profonde de la personne ou bien s'ils sont donnés par convention. Cratyle est très violent à l'égard de son interlocuteur Hermogène. D'un côté, il lui dit « ton nom ne veut rien dire », d'un autre côté, il lui fait l'étymologie de son nom, une interprétation de son nom, comme certains interprètent une personne par son écriture, c'est la graphologie, ou par son horoscope, c'est l'astrologie. Il y aurait alors une nominologie, quelque chose comme une prédiction du caractère par le nom, et c'est un pouvoir de la nomination que les parents, par exemple, dans nos sociétés, expérimentent quand ils donnent ce qu'on appelle un prénom, parce que le nom, ils le transmettent, j'allais dire, qu'ils le veuillent ou non, même si cela se fait de manière très complexe. Quel est donc le pouvoir ou la définition du nom propre? Eh bien, dans un chef-d'œuvre sur le langage, le philosophe Jean-Claude Pariente, disparu malheureusement il y a peu, en 1973, avait consacré dans ce livre intitulé « Le langage et l'individuel », deux chapitres très importants à la question du nom propre. Et il arrive à la conclusion paradoxale que le nom propre, au fond, ne relève pas d'une logique spécifique, d'une philosophie théorique du langage uniquement. Le nom propre est comparable en effet à une description. Si je dis la Joconde, ce n'est pas son nom qui importe, c'est le fait de pouvoir décrire l'objet qui y correspond et je peux y arriver par une périphrase, comme on dit. C'est le tableau peint en telle année par Léonard de Vinci et qui est aujourd'hui dans telle ou telle salle du Louvre. Mais le nom propre, c'est autre chose. Le nom propre, c'est un côté arbitraire du langage humain. Il n'est pas un pouvoir logique du langage en général, mais il situe les personnes dans le monde. Et Jean-Claude Pariente est alors amené à définir le nom propre comme un débordement du langage par la vie humaine, quelque chose qui nous replace devant le pouvoir des personnes entre elles.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.